Cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph, le 24 mars 1987.
Prenez un. servait d'un ciseau pour un tournevis. Vous oubliez que ce ciseau ne vous appartient pas et que vous n'avez pas le droit de vous en servir n'importe comment et de l'abîmer. Parce que ça coûte cher. Donc, non seulement c'est un manque de pauvreté, mais c'est un manque de justice par rapport au bien commun. Parce que vous avez utilisé quelque chose d'une façon qui n'était pas ce que vous devez. Je pourrais s'en prendre ça pour la cuisine, vous voyez. Hein? Parce que ça arriverait aussi, ça. Ça ne sert pas n'importe comment, de n'importe quel ustensile. On risque de l'abîmer après. Inutilisable. Il va y avoir ce sens-là, ce sens de la justice, quand vous ne savez pas. Enfin, si vous étiez seul au désert et que vous étiez seul à pouvoir vous utiliser de ça, alors très bien, vous pouvez faire des essais. Mais pas dans une communauté où on peut demander conseil. On peut remonter aux responsables. Mais tout ça, c'est le sens de la justice. On dit de temps en temps que les religieux n'ont plus le sens de la justice. J'ai entendu dire ça souvent. Que les chrétiens n'ont plus le sens de la justice. Que les catholiques n'ont pas le sens de la justice. Parce que les réformés l'ont beaucoup plus. Ça se dit. Et il y a quelque chose de vrai. Parce que peut-être on a beaucoup plus le sens de la miséricorde. Alors quelquefois il y a un dépassement, on le verra à propos de la miséricorde. La justice est une vertu fondamentale que la miséricorde ne supprime pas. On ne peut pas faire une œuvre de miséricorde en allant contre la justice. La justice, c'est respecter un ordre. C'est respecter un ordre. Quand on disait tout à l'heure à la lecture du réfectoire que le Moyen-Âge avait le sens de l'ordre, parce que le Moyen-Âge a le sens de la justice. L'ordre pratique, c'est la justice. L'ordre pratique, c'est la prudence. L'ordre pratique, c'est aussi la vertu de tempérance. Vous voyez, quand vous prenez un gâteau plus gros que votre estomac et que vous en êtes malade après, il y a eu un désordre. A servi du vin et vous en preniez plus que votre capacité et qu'à la fin du repas vous n'êtes pas capable d'écouter un cours, il y a eu un désordre ou de le faire, il y a eu un désordre. Mais c'est une question, toutes les vertus impliquent un ordre, c'est très grave. Mais la vertu par excellence de l'ordre, c'est la justice. Alors qu'est-ce que c'est que le droit quand je dis « vous n'avez pas le droit de faire ça » ? Quand je vous demande de ne pas parler au cours, j'ai le droit de vous le demander. Et si vous n'observez pas, vous désobéissez, donc vous n'observez pas ce qui vous a été demandé. La désobéissance, c'est d'aller au-delà de ses droits. Et c'est de créer un désordre. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit ? L'animal n'a pas de droit. L'outil n'a pas de droit. Et vous devez respecter un pur sang. Vous devez respecter un outil tout à fait spécialisé. Vous devez respecter l'usage de cet outil. Vous devez le faire. Donc, il y a un devoir. Il y a donc un droit. Alors, je crois qu'on pourrait préciser, le droit touche la personne. C'est la personne qui est sujet de droit. suis sujet de droit à partir de mes opérations naturelles, humaines, volontaires. J'ai un droit fondamental à la vie. Ça, c'est vrai. Un enfant a un droit fondamental à la vie. toi, c'est une relation qui me relie à mon corps pour une relation de domination. Le dominium sur mon corps et sur l'univers. Pour utiliser tout ce qui est inférieur à moi en vue de ma fin. Je crois que c'est ça le droit. J'acquiers des droits. Comment j'acquiers des droits? Si j'utilise le premier un outil, j'ai un droit sur cet outil. Si j'utilise le premier, une terre, dans un pays inconnu, j'ai un droit de propriété. Le droit de propriété est un droit parmi d'autres. C'est le droit humain qui s'étend à d'autres choses qu'à l'homme, à d'autres choses qu'au corps de l'homme, c'est l'extension. J'ai un droit de propriété à l'égard de mon corps, sans l'avoir, sans usage antérieur. On n'a pas le droit de me couper la main. C'est sûr. On n'a pas le droit de vous aveugler. On n'a pas le droit de vous donner une claque. Parce que vous avez le droit quand même à une certaine dignité. Quand vous étiez tout gosse, vous l'acceptiez et vous reconnaissiez que vous avez bien mérité cette claque. Au bout d'un certain temps, pas tout de suite, on n'a pas le droit de vous donner un coup. On doit respecter la dignité de l'homme. Oui, bien, le droit de propriété que vous avez vis-à-vis de votre corps et donc vis-à-vis de votre vie temporelle, c'est fondé sur l'union substantielle de votre âme et de votre corps. C'est parce que votre corps, c'est votre être. Et c'est pour ça que vous avez un droit de propriété sur tout l'usage de votre corps. Et sur tous les membres de votre corps. Être violé, c'est aller contre le droit le plus fondamental de quelqu'un par rapport à son corps. Et quelqu'un viole par violence. Le viol, c'est la violence. Et donc, c'est pas respecter le droit de l'autre. Et chaque fois que vous ne respectez pas le droit de l'autre, vous violez. Alors, c'est de ne pas respecter la propriété qu'on a. Et la première propriété, la propriété substantielle, c'est mon corps. Mon corps, c'est mon avoir. Et donc, c'est mon corps qui est ma propriété première. Et j'en use selon ce qui me semble bon en vue de ma fin. Et l'usage de mon corps est juste. Et juste quand il est en vue de ma fin. Et quand j'use de mon corps, contrairement à ma fin, j'en abuse. Abuser, violer. Et user, justement. Mais comme c'est curieux, ça. J'essaie de m'approcher de ce use, de ce droit. Comme on le voit, nulle part, hein, j'ai cherché. Très difficile de trouver ce que c'est que le droit. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. Savoir qu'est-ce que c'est que le droit. Parce que je crois qu'on ne peut pas saisir la vertu de justice si on ne saisit pas ça. Alors, je crois que c'est l'union de l'âme et du corps. Et on pourrait se poser au point de théologie. Quels sont les droits d'un ange? Est-ce qu'un ange a des droits? Est-ce que Dieu a des droits? Quel est le droit de Dieu? Ça, on peut se poser ça au point de vue philosophique. Quel est le droit de Dieu? Le droit de Dieu, c'est d'être adoré. Et vous violez le droit de Dieu quand vous n'adorez plus Dieu. Parce que Dieu a le droit d'être honoré. Chaque personne a le droit d'être honoré selon sa propre dignité. Et la dignité de Dieu, c'est d'être Dieu. Et honorer Dieu comme Dieu sait l'adorer. C'est pour ça que la vertu de religion fait partie de la vertu de justice. Parce que c'est le droit de Dieu de recevoir l'adoration qui lui est due. Et ceci, c'est pour respecter sa personne. Autrement, je ne respecte pas la personne de Dieu. Quand tu es présent, je m'efface. Pour certains, ils diront, je m'écrase. Quand Dieu est présent, je le laisse passer devant. C'est ça, laisser passer devant. C'est honorer quelqu'un. Quand vous vous effacez devant Monseigneur l'évêque, quand vous vous effacez devant une autorité, vous le laissez passer devant. C'est votre manière d'honorer. Et donc de respecter son droit. Et en faisant ça, vous respectez son droit. Vous faites un acte de justice. Mais comme c'est complexe, et c'est toujours fondamentalement le lien entre l'esprit et le corps. Ça, c'est fondamental, je crois. La question du corps comme mon avoir. Je suis uni substantiellement à mon corps. C'est plus que mon avoir, c'est mon être. Je respecte mon corps comme mon être. Je le respecte et je l'aime. Je n'ai pas le droit de l'utiliser n'importe comment. Je dois l'utiliser ensuite ma fin. Et c'est comme ça que je respecte mon corps, parce que mon corps m'est donné pour que je puisse acquérir la fin qui me béatifie. Qui est mon bonheur. Et je dois respecter le corps d'un autre de la même manière pour que lui puisse atteindre sa fin. Et si je ne respecte pas le corps de l'autre, eh bien, je commets une injustice. Je respecte le sommeil de mon voisin. Faire du bruit à partir de 10 heures du soir, parce que je sais qu'il y en a qui ont besoin de 8 heures de sommeil. C'est une injustice. Et si ça se répète, ça peut être une grave injustice. Je dois respecter le sommeil de mon voisin, parce qu'il a le droit à se reposer. Vous avez le droit à vous nourrir, le droit à vous reposer, vous avez le droit à mourir. Vous avez le droit à la survie. Vous avez le droit à mourir. C'est pour ça que quelqu'un qui prolonge votre vie de façon purement artificielle, je ne sais pas s'il a le droit. Je ne sais pas. Je crois qu'il n'a pas le droit. Il a le droit s'il pense qu'il va le guérir. Mais s'il sait qu'il ne le guérira pas, il n'a pas le droit. Parce qu'à ce moment-là, il vous utilise à titre d'expérience. Et donc, il ne vous respecte pas comme personne. Essayez vous-même, voyez, de faire toute cette petite enquête, là où on a droit, où on n'a pas droit, et voir sur quoi ça se fonde. Parce qu'il faut le découvrir soi-même, ça. J'ai droit à ceci. C'est bien, dans une communauté, le jour de Pâques, on distribue des chocolats. Pendant tout le carême, on s'est serré la ceinture, hein. Pas de chocolat, parce que ça se fait dans les familles chrétiennes, ça va bien. Pas de chocolat pendant le carême, autant que possible. C'est vrai, comme pas de cigarette, pas de... C'est bien évident. Le jour de Pâques, on distribue des chocolats. Et puis, sans faire attention, on vous oublie. Vous dites, j'ai le droit à ce chocolat. Pourquoi avez-vous le droit à ce chocolat? Parce que tous les autres en ont eu. Et quand on entend un gosse, il dit ça spontanément. On distribue. Il ne faut pas faire ça exprès, parce que c'est un mauvais service à lui rendre. Vous distribuez des bonbons, du chocolat à tous, dans une petite famille. comment ça se fait, ça? C'est qu'on fait partie d'une communauté. Si un reçoit ça, et tous doivent recevoir, il n'y a pas de raison que tous ne le reçoivent pas. Il n'y a pas de raison. Et le logos? Le logos pousse quand on voit le voisin avoir un petit droit qui pousse. Je donne un petit chocolat. À mon voisin. Il s'en sert. Il use de ce chocolat en le goûtant et en trouvant très très bon. Parce qu'il n'a pas mangé depuis longtemps. Alors je trouve ça très très bon. Merveilleusement bon. C'est un chocolat, oh, merveilleux. Signe passion de colère est la plus noble, la plus proche de l'intelligence. Elle participe de l'intelligence. Et c'est pour ça que la passion de colère veut toujours rétablir l'ordre. Dans toutes vos colères, l'ordre joue de deux manières. Vous êtes en présence d'un désordre, donc d'une injustice. Et vous voulez rétablir l'ordre, donc la justice. Chaque fois que vous êtes mis en colère, c'est pour rétablir la justice. Et donc la passion de colère doit m'aider à comprendre ce que c'est que le droit. Parce que on se met toujours en colère de temps en temps. Pendant le temps de carême, vous ne vous mettez jamais en colère, je ne doute pas. Parce que justement, vous avez des grâces particulières. Restez dans la douceur et l'amour. Mais dès que le carême est terminé, alors ça commence. Et quelquefois, même pendant le carême, parce que c'est trop long d'attendre, il y a des colères qui doivent surgir tout de suite. Alors on a une gueule de bois, parce qu'on est en colère. Et tout le monde le voit, on est en colère. Des colères, pas de la journée, parce qu'on est en face d'une injustice. Du moins, ce qu'on croit est une injustice. On ne nous a pas respecté assez. Réfléchissez bien là-dessus. Il y a une réflexion sur nos colères qui est très importante à avoir. Oui, j'essaie de saisir qu'est-ce que c'est que le droit. Le droit existe avant la vertu de droit. Et le droit, il existe objectivement en moi. Parce que mon âme spirituelle est unie au corps. Il est uni objectivement à moi parce que j'ai des parents qui ont pu me léguer un patrimoine. Parce que j'ai des amis qui ont pu me donner tel ou tel bel objet. Premier petit cadeau que j'ai reçu. Première fois, rappelez-vous bien, le premier petit cadeau que vous avez reçu d'un parrain, d'une marraine. Si c'est un cadeau, chocolat. Si c'est un cadeau d'un petit jouet, tout de suite, ma droit de propriété a poussé. C'est curieux. Et vous avez senti parce qu'on vous le donnait, qu'on le mettait sous votre domination. C'est quand même très curieux, ça. Et ça se comprend sans explication. Quand je donne à un enfant, un gosse, un jouet, il le prend. Il le tient dans ses mains. Et si un autre gosse à côté veut le prendre, ah non, c'est un voisin, m'a été donné. Revendication des droits. Alors là encore, notre moyen de s'approcher du droit, revendication des droits. Faites-vous syndicaliste, vous comprendrez ce que c'est que la revendication des droits. Et quand on pose à un syndicaliste, qu'est-ce que c'est que le droit ? Il ne sait pas. Je l'ai posé exprès, parce que ça m'intéresse. En disant, je cherche. Je sais que vous êtes des syndicalistes. Et donc vous aimez de revendiquer les droits de l'ouvrier contre le patron qui n'a pas de droit. Ou qui abuse de ses droits. Et puis maintenant, il y a des syndicats. Patrons qui revendiquent les droits des patrons contre les abus des droits de revendication et ainsi de suite. On est en pleine revendication, en plein abus de droit. Panier de crabes là-dedans et personne ne sait ce que c'est que le droit. Je crois que c'est pour ça qu'on les revendique mieux du reste. Parce que ça s'augmente. Alors à la rigueur, on sait à peu près ce que c'est qu'un droit d'un ouvrier, parce qu'il y a un contrat. Alors grâce au contrat de travail, on s'abrite là-dessus. Mais allez plus loin. Quel est le fondement d'un contrat de travail ? Voyons, là on touche toute une quantité de sujets extrêmement actuels, difficiles, mais très difficiles. Et c'est très intéressant d'entendre les syndicalistes chrétiens qui veulent bien avoir une conversation franche. vallées. C'est des vieux amis. Et ils aiment qu'on aille passer comme ça 3-4 jours avec eux. Et à ce moment-là, moi, ça m'intéresse énormément de voir le boulot qu'ils font, les revendications. Il ne faut pas trop pousser, savoir quel est le droit. Alors là, je les humilie parce qu'ils savent pas encore rien dire. Dites, mais c'est vous qui devez le dire, c'est le philosophe qui doit dire ça. Si on est syndicaliste, on revendique des droits. Les droits des ouvriers. Mais les droits des ouvriers, c'est les droits humains. Un ouvrier n'a de droits que parce qu'il est un homme. Et un homme capable de faire des contrats. Et vous savez bien comment certaines considèrent le contrat de travail. Vous vendez votre travail. Hein? Vous entendez Marx dire ça. Vous vendez votre travail. Et votre travail, c'est vous. Donc vous vous aliénez. On voit très bien ça. Le petit blocage de la relation à la personne. Alors, il faut saisir ça. Moi, je voudrais quand même que vous y réfléchissiez profondément. Qu'est-ce que c'est que le droit? Tant que vous n'aurez pas réfléchi vous-même sur les petits droits, les petites revendications que vous avez. Tout le temps des revendications. Et quand vous avez de la peine à obéir, à cause de quoi? Revendication. On ne respecte pas suffisamment ma liberté. On n'a pas respecté suffisamment la liberté de mon voisin. On aurait dû lui accorder ça. On ne lui a pas accordé. On l'avait accordé à un autre avant. Et on ne lui a pas accordé. Vous savez bien, c'est ça constamment. Ces revendications au point de vue de l'obéissance. Généreusement, on accorde à quelqu'un telle chose. 15 jours après, il redemande la même chose, on dit non. Il dit, mais mon père, il y a 15 jours, vous l'avez accordé. Mais oui, mais je l'ai accordé librement, par surabondance. Immédiatement, une permission est transformée en droit. Et là, il y a un abus. On transforme des quantités de permissions en droit. Mais constamment, c'est comme ça. Et dans les syndicats, c'est comme ça. Et c'est... Les juristes sont comme ça. Les juristes ont une peine énorme d'accepter qu'on fasse un acte de miséricorde à quelqu'un. Ils vous disent, brutalement, vous créez un précédent. Vous voyez ? Vous créez un précédent. Donc vous ne pouvez plus faire un acte de miséricorde. Parce que vous créez un précédent. Alors on lui répond, pas du tout, c'est un acte de miséricorde. Alors si c'est un juge chrétien, il comprendra. Si c'est pas un juge chrétien, il comprendra pas. Il y aura beaucoup de peine à comprendre. Parce qu'en faisant un acte de miséricorde, ça vous crée un précédent. Et c'est vrai, même dans la vie commune, c'est comme ça. Créer un précédent, vous voyez, c'est dans la jurisprudence. Parce que la jurisprudence s'établit à partir d'actes particuliers qui sont à la lisière. Alors, vous créez un précédent. Et alors, à partir de là, vous ne pouvez plus faire la miséricorde. Mais comme c'est important pour nous, du reste, parce que quand on fait ça et que quelqu'un vous dit vous créez un précédent, il faut que vous soyez suffisamment lucide pour dire non. Je ne crée pas un présent, je fais un acte de miséricorde. Laissez-moi la possibilité de faire un acte de miséricorde. Et c'est vrai qu'un État qui devient de plus en plus totalitaire fait que de moins en moins on peut faire des actes de miséricorde. Parce que immédiatement on est relié à un système d'assurance sociale et des systèmes d'assurance sociale au carré. C'est ça. Alors qui fait qu'à ce moment-là, on ne peut plus. C'est tout un réseau. La personne humaine n'a plus d'autonomie. Ça, il faut le comprendre. Ça fait partie de la compréhension de notre économie d'aujourd'hui, de notre monde d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit? Je reviens tout le temps à ça. Le ius. Je vous ai dit un instant, le droit existe avant la vertu de justice, c'est bien évident. Donc tous, même si nous n'avons pas la vertu de justice, vous l'avez tous la vertu de justice. Elle est embryonnaire. Et vous l'avez très fortement quand on vous laisse vos droits. Alors à ce moment-là, réfléchissez, du reste c'est excellent de réfléchir quand on a laissé nos droits, c'est excellent de réfléchir, ça diminue. Ça diminue notre colère. C'est un grand truc, ça. Quand on a lésé vos droits et que vous avez une bouffée de colère qui monte, dites-vous, mais je vais essayer de réfléchir. Quel est le droit que j'avais? Qu'est-ce que c'est que ce droit? Vous mettez à réfléchir, votre colère diminue. Ça, c'est le truc. Changez de vitesse. Votre capital de vie est limité. Et si, à la place, vous mettre en colère pour répondre, vous dites donc, soyons intelligents, réfléchissons un tout petit peu. À ce moment-là, votre capital de vie va du côté de l'intelligence. Et la colère s'apaise. Les intellectuels se mettent vite en colère, mais l'avantage, c'est que ça tombe vite aussi. Les vrais intellectuels, c'est du reste, je crois, ce qui permettrait de nouer. Si ce sont de vrais intellectuels, de vrais spirituels, les vrais spirituels se mettent facilement en colère quand on touche à une vulnérabilité qu'ils considèrent comme quelque chose de vulnérable. Là, ils se mettent en colère. C'est normal. Heureusement, quelqu'un qui se met jamais en colère, mais c'est terriblement ennuyeux. Il lui manque du sang dans les veines. Mais jamais en colère. Ah, ça m'est égal. Vous savez, je suis dans la sainte indifférence. Il n'y a rien de plus exaspérant. Parce que la sainte indifférence, on voit ce que ça veut dire. Indifférence politique, mais il n'y a pas de sainte indifférence au point de vue profond. On est tous orientés vers un bien, qui est un bien divin. Donc, qu'est-ce que c'est que le droit antérieur à la vertu de justice? C'est la personne humaine qui prend conscience de ce qu'elle est et qui a un droit à sa vie, à sa survie, à son développement. Mais le droit existe indépendamment de la conscience que j'en ai, c'est sûr. Mais pour respecter le droit de l'autre, il faut prendre conscience de mon droit. Et en respectant les droits de l'autre, je respecte aussi mes droits. Et je prends conscience de mes droits. Donc je crois que pour découvrir le droit de l'autre, il faut toujours avoir cette conscience de cette relation substantielle de mon identité, de mon esprit et de mon corps. Je crois que c'est ça qui fonde toute relation au droit, en moi et dans les autres. Et puis, le second moment où le droit pousse, c'est l'usage à l'égard de quelque chose, de quelqu'un. Parce que je peux avoir un usage à l'égard d'un serviteur, d'un ouvrier, à l'égard de quelqu'un qui m'aide. Alors je demande service. Je demande de faire telle ou telle chose. Ce qui est dit dans l'Écriture, vous savez bien. Quand je dis à celui qui est à mon service, fais ceci, fais cela, il le fait. Et c'est là le signe du serviteur. Le serviteur, c'est celui qui exécute ce qui est demandé. Et qui n'attend rien d'autre. Eh bien, du fait même qu'on a usage avec quelqu'un, il y a un droit qui pousse. Il faut faire du reste toujours grande attention. Ça ne pousse pas trop vite. Il y a un droit qui pousse à l'égard d'un serviteur, d'une servante, à l'égard d'un animal, à l'égard d'un outil, à l'égard d'un aliment. Très curieux. Alors là, usage, il y a un certain droit qui va naître. La vertu de justice, c'est respecter le droit de l'autre. Tous les droits de l'autre. C'est donc une vertu qui consiste en premier lieu de respecter l'autre. Et quand ce respect est regardé avec suffisamment de profondeur, d'aimer ses droits. Il y a un amour du droit de l'autre. Et de coopérer avec lui pour que ses droits soient de plus en plus ce qu'ils doivent être.
Maintenant et à l'heure de